hommage à Small World.
Maudite pénurie de logements!
Qui le dis-tu?
T'es là, juste hier. Le territoire voisin s'est fait envahir par des squelettes et des orques coup après coup.
Crénom de Dieu!
Et la montagne qu'on occupe, là, ben, le mois passé, c'était des elfes qui l'occupaient.
Ils ont décampé tellement vite qu'on aurait cru qu'ils avaient le feu au cul!
Et tu te rappelles du hameau de Maurice? Un dragon a tout rasé!
Et toute sa récolte de patates?
Ben, tout!
Ah ben, crénom de Dieu!
Ben, tu l'as dit, hein? N'empêche que je me demande pourquoi cette région est tant convoitée.
C'est un petit monde.
Ah! Oh, un small world!
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi et bienvenue à cette édition de la semaine du 13 juillet 2009 de votre émission sur le monde ludique Puissance maximale que vous écoutez sur les ondes de CKIA ou peut-être même sur les ondes de Radio Taïga au territoire du Nord-Ouest et Radio Anticosti, mais on sait à peu près c'est où, sur l'île d'Anticosti. Mon nom est Vincent Langlois et je suis en compagnie de François G. Couillard.
Salut Vincent!
Salut François! Alors, nous avons une émission assez chargée aujourd'hui, comme à toutes les semaines à Puissance maximale. De ton côté, de quoi va-t-on parler?
On va commencer avec une entrevue avec Philippe Lehoux, qui est avec nous, qui on va parler du bivouac urbain, qui va avoir lieu bientôt là, à Québec.
Nous aurons également la visite de Christian Lacroix un petit peu plus tard dans l'émission. De mon côté, moi, je vais vous parler d'un jeu de PlayStation 3 que j'ai essayé, le fameux jeu Infamous, dont Christian nous avait parlé il y a quelques semaines de cela. Donc, j'ai testé ça cette semaine pour vous. On va avoir une petite chronique là-dessus. Donc, ça fait le tour de ce qu'on aura à l'émission cette semaine. On va commencer tout de suite en musique.
On va écouter la sélection musicale de Yannick Capmarty, notre ami français de Haute-Garonne, qui nous envoie chaque semaine une MP3 d'une pièce de tirée d'un jeu vidéo. Et cette semaine, c'est toujours tiré du jeu Final Fantasy X-2. Et il va me présenter lui-même sa pièce. Vous pouvez aller voir son site internet musax.info.
Habituellement composé par Nobuo Uematsu, les musiques de Final Fantasy X-2 sont cette fois réalisées par Noriko Matsueda et Takahito Eguchi, toutes dans des styles très différents.
Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance petit, Maximale.
Mon petit bébé d'amour.
Responsable de jeuxgratuits.net, Philippe A. Lehoux lancera au mois d'août le Bivouac Urbain, premier événement qui rassemble les créateurs de jeux vidéo et le public qui aura lieu dans le quartier Saint-Roch. Le fondateur est là pour nous en parler. Bonjour, Monsieur Lehoux.
Salut, salut.
Donc, dis-moi, là, question d'introduction, c'est quoi qui t'a donné l'idée de lancer le Bivouac Urbain, là?
Ben, c'est parce qu'en fait, moi, avec le portail en ligne jeuxgratuits.net, souvent, je fais affaire avec des développeurs de jeux. Ça se trouve être des jeunes, pour la plupart, là, qui soit c'est des étudiants qui veulent un jour accéder à l'industrie, ou soit c'est des gens plus underground qui souhaitent développer un courant qu'on appelle le indie gaming. Puis souvent, je me suis rendu compte qu'il y en avait plusieurs qui venaient de pays comme la Suède, l'Allemagne du Nord, certains États aux États-Unis.
Peut-être moins au Québec?
Ben, c'est ça. Moins au Québec. Puis certains. Je sais pas si vous connaissez la communauté de jeux en ligne Flash Newsground.
Bien sûr, bien sûr.
Là-dessus, j'en ai connu quelques-uns, dont Jean-Daniel qui va venir participer à la compétition. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment un bassin pour plus, étant donné toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo commercial au Québec. Ben pourquoi pas créer un événement qui permettrait aux jeunes de s'épanouir là-dedans, puis peut-être de pousser des gens à se lancer dans leur propre boîte de jeux un peu plus indépendant, là, plus artistique. Là.
OK, dans le fond, ton but, c'est de promouvoir le jeu indépendant, le jeu artistique.
Bien, mon but, c'est de promouvoir le jeu vidéo, puis ça donne que je suis un gros fan de jeux indépendants. Fait qu'en même temps, par la bande, je pense que ça peut juste... Puis aussi, promouvoir le côté peut-être plus artistique du jeu vidéo, là, le plus contemporain, peut-être.
OK.
De côté moins ludique, mais plus artistique, là, plus narratif, là, que je pense que dans le jeu vidéo va se développer là, dans le futur, étant donné que les gamers sont de plus en plus vieux, puis les gens cherchent d'autres expériences.
Là, tu disais justement, tu as parlé de jeuxgratuits.net. Dans le fond, toi, tu travailles là-dedans, tu ne fais que ça à longueur de journée. Là.
C'est ben, ton travail, le seul et unique plein. Derrière ce petit portail de jeux de casual gaming. Ouais.
On s'entend, c'est un site là, comme un peu Newgrounds, là, c'est-à-dire qu'on retrouve là-dessus des jeux vidéo. Et on peut jouer assez des jeux en flash la plupart du temps.
Ben c'est ça, mais Newgrounds, c'est vraiment une communauté de créateurs, de développeurs. Moi, c'est vraiment là, monsieur, madame, tout le monde qui vient jouer là-dessus. Là. Ça se trouve à être des petits jeux flash en ligne. Donc, il y a un système de. Il y a un chat. T'as la fenêtre de jeu, t'as le chat. Puis t'as des systèmes de médailles. Donc, si tu fais certains scores, tu gagnes des médailles sur le jeu.
C'est comme des trophies, dans le fond.
Des trophies au PS3 où il y a des achievements. Je m'excuse de l'anglicisme sur le Xbox.
Mais ben, évidemment, c'est tout fait à la sauce Philippe Lehoux. Donc, moi, je suis programmeur, graphiste. Il y a juste les textes que je rédige pas parce que je suis complètement nul en français. Donc, j'ai trouvé un petit rédacteur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous connaissez des gens qui aiment tester des jeux vidéo, moi, j'ai des postes pour ça.
J'ai levé la main, je suis présent et je suis en vacances.
C'est pas mal notre domaine. Mais là, restons quand même dans le bivouac urbain. C'est ça qui est important.
Yes.
C'est pour ça que, et d'ailleurs, je sens que les gens ont vu à la télé récemment pour en parler.
Avec mon nouveau tailleur Simons que j'ai acheté exclusivement pour...
Donc, par nous, là, c'est quoi fonder le bivouac urbain? Comment t'as travaillé là-dessus? Comment t'as créé ça?
Mais en fait, ça a tout
on parle de demande de...
À Taverne chez Mo. Je savais prendre une bière avec un chum, puis j'ai parlé de l'idée un peu folle de faire ça.
Sur Saint-Joseph.
Ouais, c'est ça. Puis lui, ça donne que c'est un gars qui est dans l'événementiel. Donc, dans les communiqués de presse, il est considéré comme un passionné de jeux vidéo, ce qu'il n'est pas du tout, là. Je dois le préciser, il est plutôt comme un passionné d'événements. Fait que c'est un passionné de jeux vidéo plus un passionné d'événements ensemble, puis ça fait que ça peut faire de quoi qu'il marche.
Et ça, c'est quoi son nom?
Marc-Olivier D'Amour. Donc, c'est un gars qui a l'université organisé des événements sans arrêt, puis qui a travaillé pour le Red Bull Crash Ice puis le Jamboree. Donc, il y a comme plein d'expériences là-dedans, fait qu'il est vraiment effectif. Là.
Puis là, alors, lui, il t'a dit comme ça, comment il t'a lancé ça, là? Il t'a dit, ben, ce serait le fun de faire de quoi en jeu vidéo?
Ben, c'est moi qui ai lancé l'idée, là. Okay. J'ai dit, hey, écoute, j'ai un événement un peu flyé, là. Ben, en fait, au départ, c'était le Campfire Game Fest, que ça s'appelait. Oh. J'étais supposé d'être dans un chalet avec une coupe de chum pis de la bière. Fait que je peux dire que
Campfire.
En fin de compte, des choses qui existent déjà dans la vraie vie, mais vraiment, tu voulais en faire quelque chose d'officiel.
C'est ça. Puis en parlant à des amis, puis donc un autre qui s'appelle Vincent Bernier, qui nous a aidé à fonder le truc, qui travaille chez Frimo Studio, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une demande de faire de quoi dans Saint-Roch.
Okay.
Étant donné tout l'engouement qu'il y a derrière les cinq grosses boîtes de jeux vidéo. Fait que de là, j'ai commencé à approcher des gens dans l'industrie. Ben, en fait, une ou deux personnes par compagnie. Puis là, j'ai vu un certain intérêt. C'est sûr que c'était difficile de les convaincre, étant donné que j'ai pas vraiment un background organisationnel. Mais
c'était,
peu à peu,
c'était plus Marco qui s'occupait de ça?
Non, toutes les relations avec les boîtes, c'est plutôt moi. Lui, okay. Il s'occupe vraiment, là, t'sais, le chapiteau, l'électricité, okay. Les monteurs de son, là, tout ce qui est vraiment technique. Là. Tout ce qui était de bâtir l'espèce de réseau puis de convaincre les gens, c'est plus moi qui l'ai fait.
Là. Donc, pour dire les choses franchement, là, au début, c'était simplement un party de jeux vidéo dans le bois, puis là, c'est devenu bivouac urbain. Là, je commence à comprendre pourquoi ça s'appelle le bivouac urbain. Il y a un côté...
T'as une certaine piste, là. T'as une certaine piste, puis ça s'est adonné que, en fait, moi, là, dès que j'ai vu que c'était peut-être un peu plus gros que ce qu'on pensait, je vais évidemment franciser le nom, là, pour justement peut-être aller chercher des sous publics. Puis, un bivouac urbain, pourquoi? Ben, c'est parce que c'est à l'extérieur, c'est en chapiteau. Donc, un bivouac, c'est un campement. Puis, urbain, ben, c'est au milieu du quartier Saint-Roch. Là.
Donc, pas de possibilité de voir des scouts là-bas. Là. On parle de bivouac, vraiment. Là,
non.
Les jeux vidéo, pas personne habillée, pas de doigts dans les airs pour faire... Donc, vraiment, ça devrait être intéressant. Moi, vraiment, au niveau de l'organisation, tout ça, est-ce que ça a été facile de créer ça? Parce que tu parles d'un site web que toi, t'as parti il y a de cela près de 10 ans. Une idée qui a grossi. Tu parlais de contact avec les gens de l'industrie. Tout ça, j'imagine que quand quelqu'un a dit oui, les autres, ça s'est tout embarqué les uns après les autres pour justement pas laisser la place.
Ben, il y a beaucoup de compétition dans l'industrie. Malgré ce qu'on peut entendre des fois, là, c'est sûr. Je veux dire, ils sont tous bons joueurs, là, mais dès qu'ils en ont vu un qui a embarqué, ils se sont dit, ah, là, ils vont exposer en plein milieu de la ville. Il y en a un autre qui a embarqué. Là, j'ai présenté le projet au maire Labombe, il a trippé. Fait que là, ça a convaincu la dernière boîte qui était pas trop convaincue de notre commitment en anglais, là, tu sais, puisqu'il y avait peut-être peur que des jeunes de 25 ans, ça soit pas sérieux. Mais après,
c'était qui les plus frileux? Nommons-les, là.
Ah, ça, je me garde ce petit secret d'organisateur, malheureusement. Peut-être après l'événement, si je reviens, je pourrais vous le dire. Mais
ça sera peut-être les premiers à s'annoncer l'année prochaine, donc on est peut-être mieux de pas embarquer sur ce terrain glissant-là.
Avec le maire de Québec, qui est en campagne électorale, a sauté sur l'occasion, évidemment, et il a embarqué là-dedans. Évidemment, ça a donné de la visibilité et de la crédibilité énormément à l'événement.
Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai rien contre ça parce que sans lui, probablement qu'il y aurait eu un ou deux journalistes, tandis que là, les journalistes de tous les réseaux étaient là. Donc, ça a vraiment donné un boost assez incroyable.
Et là, on a parlé on l'a nommé l'événement, mais on n'a pas encore expliqué c'est quoi.
C'est ça.
C'est qu'il va y avoir plusieurs choses. Il y a une compétition de créateurs de jeux vidéo.
Ouais.
Et où dans lequel les professionnels du jeu vidéo, mais aussi le public ou les amateurs peuvent participer.
Ouais.
Et il va y avoir aussi d'autres choses. Il va y avoir des DJ, il va y avoir des graffeurs. Alors, peux-tu peut-être décrire en...
OK, je vais faire le pont en tout ça, là. En fait, ce qu'on voulait faire, là, c'est que le bivouac urbain, on veut que ce soit créatif, tu sais. On parle souvent que dans l'avenir, tu sais, puis même dans le jeu vidéo, là, tu sais, il y a des studios chinois qui vont pouvoir faire le un peu en anglais le dirty job, là. Tu sais, nous, si on veut se spécialiser, c'est vraiment dans l'aspect créatif, là. Donc, c'est un peu le branding qu'on voulait mettre à l'événement créatif. Fait que l'événement est né de la compétition de création de jeux vidéo. Donc, c'est 50 à 100 compétiteurs, que ce soit des amateurs, des étudiants ou des professionnels de l'industrie du jeu, qui vont se réunir puis qui vont avoir à créer un jeu vidéo en équipe de 2 à 4 sur une thématique qu'on va donner au départ. Dans le fond, ils ont le droit d'utiliser les outils qu'ils utilisent normalement pour faire un jeu vidéo, sauf qu'il faut que le jeu vidéo soit lié à la thématique de façon extrêmement créative.
Est-ce que tu peux apporter ta clé USB avec ton code déjà fait dessus au cas?
Ben, tu pourrais amener ton clone de Snake, puis si la thématique, je sais pas, c'est là je vais dire par rapport, mais mettons que c'est la foresterie, puis que au lieu d'être un snake, c'est un arbre, puis un buisson, là, mais je suis pas sûr que tu vas gagner.
C'est quand même possible d'apporter quand même quelque chose pour démarrer.
Ouais, clairement, exemple, un truc que je parle souvent quand j'invite les gens à participer, c'est, tu sais, passez pas 12 heures à programmer un moteur de physique, là, de physique.
Apportez-le, il est déjà fait, ok.
Utilisez un déjà fait, mais fait que le jeu soit super. Tu sais, passez pas du temps sur de la technique, là.
Mais là, une question comme ça, là, tu dis, ouais, créatif, tout ça. Ben, est-ce qu'il va y avoir, par exemple, des gens du milieu des arts visuels, là, je dis ça comme ça, là?
Ouais, ben, c'est ça. Ben, autour de ça, là, il y a des graffeurs de Québec que nous, on trouvait super intéressant. Puis c'est des bons amis, fait qu'on a.
Il y a Avive du collectif Morgan Bridge.
Ouais, c'est ça. Ben, il va y avoir plusieurs. plusieurs gars du collectif Morgan Bridge. Qui, en fait, c'est une galerie qui se trouve sur...
Dupont.
Dupont, c'est ça. Puis,
ouais, d'ailleurs, c'est gratuit. Les gens peuvent y aller. Il y a même moyen d'acheter des trucs. Là. C'est comme une boutique, mais galerie d'art en même temps.
Ouais, c'est ça. Ils font des trucs super flyés. Puis eux, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas venir exposer leurs œuvres. Ils vont en créer sur place. Fait que c'est juste un clin d'œil là, à l'aspect, okay, à l'aspect artistique du jeu vidéo. Dans le fond, derrière tout ça, il y a des créateurs plus artistiques. Là.
OK, il va y avoir de la musique aussi, il va y avoir DJ ben Princess et Murdoch, ouais. Sam Murdoch de l'étiquette TP572, d'ailleurs qui a collaboré, il est venu il y a quelques fois à Puissance Maximale. Et donc lui
ben, qui est un tripot de jeux vidéo terrible, oui. En fait la première fois que je l'ai rencontré, on a parlé plus de deux heures de
mais
sa
comment
collection
t'es tombé sur lui?
De Virtual Boy puis en fait comment j'ai tombé sur lui, c'est comment j'ai tombé sur lui, c'est une bonne question.
C'est drôle de hasard quand même d'avoir tombé sur un gars comme ça qui...
En fait, je le sais pourquoi je suis tombé sur lui. Il y a une fille qui s'appelle Matt Mathématique, donc myspace.com.
Oui, Mathématique, ben, c'est Mathématique. Tout nouveau là.
C'est tout nouveau, elle a pas fait son lancement de disque. Puis moi j'ai trippé ben raide sur sa musique qui, en fait, c'est pas du pur 8-bit parce qu'elle utilise des claviers, mais vraiment une musique qui a une sonorité jeu vidéo, oui, super entraînante. Puis elle lance son... En fait, elle est sur l'étiquette de Sam Murdoch. Moi, j'ai approché Sam pour peut-être la voir à l'événement, elle. Puis ça s'est adonné qu'elle a des empêchements, donc elle pourra pas être là. Mais après ça, j'ai vu à quel point lui, c'était un passionné. Il est tellement énergique puis prolifique que ça va... Lui, il va créer des sets avec Pascal, les deux de Princess Murdoch, exclusivement basés sur des tunes de jeux vidéo. Là.
Oh.
Donc, ils vont venir comme 2-3 heures par jour sur le stage, mettre de l'ambiance sur le site avec de la musique de jeux vidéo.
OK.
Mais... À côté de ça, on veut faire venir des vrais DJ 8-bit là, qui font ça.
Comme qui, justement?
Ben, il y a Matt Foss de Montréal.
Oui,
d'ailleurs,
oui.
En fin de semaine, je suis allé au Toy Company 4, qui est un événement de musique, oui, électronique.
Dont on a parlé la semaine passée. Justement, on était en entrevue la semaine passée avec...
Avec Emmanuel de Taxi Nouveau.
C'est ça.
OK, c'est ça. Puis donc là-bas, j'ai rencontré des groupes. On va probablement faire venir un ou deux. Donc il y a Matt Foss qui est super bon, qui lui fait plutôt du indie 8-bit, c'est-à-dire que c'est pas vraiment du chipcore ou c'est pas très hardcore, là. Mais c'est aussi le fait que c'est Joe puis que c'est assez familial. Le chipcore un peu trop hardcore, ça serait peut-être un peu déplacé parce qu'à 2h du matin au Toy Company 4, là, je peux vous dire que ça brassait pas mal.
Ouais, c'est comme un gros rave de musique inspirée des jeux vidéo.
Ouais, c'est ça.
Puis les gens qui sont à Québec, qui évidemment, alors les gens à Yellowknife, à Radio Anticosti, c'est moins évident. Mais évidemment, la semaine prochaine, ça va être à Québec, Festival Off.
Oui.
Ne manquez pas ça, 17-18 qui s'en vient en fin de semaine. Toy Company s'en vient à Québec. Et d'ailleurs, je vais être sur place, je vais faire des entrevues avec Mathématiques, les gens de Toy Company. Et on va voir ça la semaine prochaine ou la semaine suivante.
Ouais, je pense pas que c'est le même line-up de groupe, mais il y a plusieurs autres groupes que moi j'ai pas vu, que justement là, au festival comme Noise and Ice Song, je me rappelle pas comment ça se prononce, là. Il y a vraiment des bons groupes de Montréal qui vont descendre. Là.
Donc, Bivouac Urbain, t'as pas terminé ton travail, t'es encore en démarchage pour trouver des collaborateurs, des annonceurs peut-être?
De ce côté-là, ça va bien. Là. En fait, là, ce qui reste, c'est le démarchage parce que les compétiteurs, faut les nourrir. Là, dans notre package au départ, pour les attirer, on a dit qu'on les nourrissait pour la fin de semaine. Si jamais vous êtes intéressé à venir, c'est un autre avantage. Donc ça, on essaie de trouver des restaurateurs qui seraient prêts à nous aider là, pour la bouffe. Là.
Okay.
Mais tout ce qui est commanditaire, là, on est rendu bouqué. Là. Ça a vraiment bien été. Là.
Donc l'appel est lancé pour les restaurateurs. Si vous voulez participer au bivouac urbain, on doit contacter Philippe qui va être là ou peut-être même tes collaborateurs.
Mais en fait, l'appel est surtout pour les compétiteurs. Là. C'est sûr qu'à la puissance maximum, il y a du monde qui aime bien faire des jeux vidéo. Là.
Oui.
Alors, tous ceux qui aiment bidouiller avec Flash ou peu importe, en fait, c'est soit en Flash, donc en .SWS ou soit en exécutable Windows. Vous pouvez utiliser n'importe quel framework qui peut compiler en .exe. Vous pouvez venir, c'est 60$, ça comprend la bouffe. Vous avez la chance de gagner plus de 8000$ en prix. Là. Donc, vraiment, si vous êtes un troupeau de jeux vidéo, vous avez la moindre connaissance de programmation, là, c'est vraiment pas un événement à, ouais, pas manquer, je pense.
Je te dirais, Philippe, moi, je suis programmeur, puis puissance maximale, il y a Mathieu Place qui est illustrateur, puis là, je me disais, ouais, on pourrait faire un duo, faire ben, quelque
clairement,
chose.
Clairement.
Alors, qui sait, peut-être que Puissance Maximale aurait son équipe, ça reste à voir.
Je l'espère, vous pourriez faire un documentaire live en plus,
ouais,
sur votre
expérience. Oui, j'irai filmer ou j'irai donner des idées.
Et en plus, ça va être diffusé live sur bivouacurbain.com, je pense. Hein,
oui, c'est ça, mais du moins, ça va être un feed quand même assez basic, là, parce qu'on n'a pas les moyens de se payer une régie mobile, là, mais du moins, probablement que ça va être une caméra qui va se déplacer un peu sur le site, là, qui va passer de poste en poste, voir ce que le monde font sur leur clavier et leur écran.
Excellent.
Ben écoute, je te remercie beaucoup. Philippe A. Lehoux du Bivouac Urbain, merci d'être venu. Merci. Et je te souhaite bonne chance pour le bivouac. Ça va être du 7 au 9 août 2009. Ça va être sur la place de l'université. Ça, c'est Couronne-Charret.
C'est ça, ben, juste à côté d'ici, là, juste à côté du complexe Méduse.
Oui, on vous souhaite une excellente première et enfin, félicitations déjà à l'avance parce que c'est le fun de voir que les gens de Québec, ça bouge comme ça. Puis encore là, on met encore l'emphase sur le jeu vidéo qui est une industrie qui est en plein développement à Québec. Donc, félicitations encore.
Ça représente 100 millions de dollars là, de chiffre d'affaires à Québec. Ah, donc, ce n'est pas rien. 1000 emplois. Donc, bonne chance. Et sinon, on va aller écouter une pièce. Les gens qui veulent en savoir plus, bivouacurbain.com ou sinon, ils vont sur ton site, jeugratuit.net.
Et puis, merci à vous. Puis, vous autres aussi, là, super trippant ce que vous faites, les gars. Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Très apprécié.
On va aller écouter justement une pièce. On parlait de P572. On va aller écouter justement le nouveau groupe de Sam Murdoch qui s'appelle. Hey, j'ai de la misère à prononcer son nom.
Romocto
Diamond.
C'est ça.
Et ça va être la pièce Silver. Vous écoutez Puissance Maximale.
Madame folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
De retour à Puissance Maximale, comme le disait si bien Madame folle, et nous sommes en compagnie de Christian Lacroix qui est avec nous en studio.
Oui, bonjour, ça va bien.
Salut Christian, hop, et je ne sais pas si le micro est ouvert, mais je ne suis pas sûr d'avoir entendu Christian.
Salut Christian,
salut, ça va bien?
Oui. Yes.
Ah, il est là.
OK.
Hey Christian, aujourd'hui, de quoi nous parles-tu?
Ben oui, là, j'ai réussi à traverser l'enfer du trafic de Québec.
Incroyable à cette heure-ci, vraiment.
Finalement, me voici tout en soir pour vous parler donc de Hackmaster. Chronique, donc, jeu de rôle. Qui va, donc, je parle d'un classique qui va être revisité bientôt. Donc, Hackmaster, je ne sais pas si vous connaissez un peu.
Moi, ça ne me dit rien du tout.
Non, OK.
Comme tu connais mon talent ou même mes connaissances dans les jeux de rôle. Mais quand même, je serais intéressé à savoir ce dont tu vas nous parler.
Oui, OK. Donc, Hackmaster, on vient d'apprendre que Kenzerco, là, la compagnie qui fait ça, va sortir la 5e édition. Ben, en fait, elle vient de sortir, la version de base, OK? Donc, c'est Hackmaster Basic. Évidemment, là, malheureusement, c'est en anglais seulement, là. Il n'y a pas de traduction à connaissance.
Là, tu la tiens dans tes mains, là.
Oui, c'est ça. Oui, ben moi, j'ai l'ancienne version. Okay, okay. La version originale.
L'ancienne version, on parle de quelle année? Là?
On parle de 2000-2001 okay. Et un peu plus, oui. Et il faut comprendre l'origine de ça, c'est que c'est un... Vous connaissez peut-être, c'est un comic sur le web qui s'appelle les Knights of the Dinner Table, donc les chevaliers de la table à dîner. Alors, c'est un peu, évidemment, une parodie. C'est un groupe qui joue des sessions de jeux de rôle. Et évidemment, c'est un peu humoristique. Et ils voulaient un peu faire des petites pointes vers les anciens jeux Donjons et Dragons, là, vraiment les anciennes éditions, avec toutes les bizarreries qu'il y avait, puis tout le côté un peu... ouais, lourd, tout ça, de ces systèmes-là. Okay. Alors donc, c'est pour ça qu'on... ils ont dans le comic, ils jouaient un jeu, ils voulaient pas l'appeler Donjons et Dragons, donc ils l'ont appelé Hackmaster. Évidemment, c'était comme un jeu virtuel. Et là, les fans du comic, il y en avait tellement qu'à un moment donné, ils ont dit ben hey, on aimerait ça avoir le vrai jeu Hackmaster, que ça devienne un vrai jeu. Fait que là, ils ont réussi Kenzer Co Company, ils ont réussi à obtenir les droits de Wizard of the Coast pour les anciennes éditions, l'édition 1 et 2 en tout cas de Donjons et Dragons. Alors, ils ont pris tout ça, ils ont rajouté un paquet de vraiment là, quand vous dites là, on a deux livres de 400 pages mais écrits tout petits là, ça donne mal à la tête. Regarde ça.
C'est assez petit, oui.
Et il y a des milliers des centaines de tables là-dedans, c'est et donc c'est poussé à l'extrême. C'est tellement en anglais on dit crunchy là, hein, il y a tellement de règles et de écoutez, pour vous dire là, ils font des tables avec les tables de critique, OK, c'est des dés 10 000.
Des dés 10 000.
Ben là on roule une succession de D10,
ouais,
et puis là, on l'a attribué. Vous imaginez, donc, des tables de plusieurs pages, des tables de rencontres de monstres. En tout cas, c'est le pire, c'est que ça fonctionne.
Mais qu'est-ce qui pousse les gens à s'embarquer dans quelque chose d'aussi complexe que ça? C'est-tu vraiment que ça en vaut la peine ou quoi?
Ben, écoutez, on tombe dans un débat qui n'en finit plus, qui déchire la communauté des gamers. C'est le old school versus le new school. Bon, encore là, c'est tous des termes anglophones. Je m'excuse, là, mais je fréquente beaucoup de
discussions ces temps-ci.
Sur Internet, entre autres. Là, donc, c'est ça, la vieille école contre la nouvelle école. Alors, la nouvelle école, c'est beaucoup plus comme, par exemple, Donjons et Dragons, 4e édition. Là. Ça,
c'est super simplifié.
Oui, un peu enfantin. Un côté presque jeu vidéo. Là. C'est vraiment là, des petits pouvoirs, j'active ça, j'en ai tant par rencontre. Après ça, c'est très tactique, c'est très léger.
Aucun taco, aucune soustraction à faire.
Ouais, le plus simple possible, mais en même temps, puis très, là, un peu... bon, alors que la vieille école, ça veut vraiment se compliquer la vie. Ça aime ça, pouvoir s'astiner sur des règles. Là, et là, dans le fond, le meilleur joueur, ça va être celui qui connaît le plus à fond les règles. Il va pouvoir dire, ça. Non, je te contredis parce que à la page 388, il y a une table qui, bon... Alors,
je l'ai relu hier soir avant de me coucher, donc je le sais.
Voilà, exactement. Et donc, ça, le phénomène qu'on appelle là, les rule lawyers, encore là, l'espèce d'avocat des règles, là, qui vont... ça, c'est un phénomène vraiment... tannant, mais on trouvait ça beaucoup dans la vieille école des jeux. Oui. Alors, celui-là, donc, c'est poussé à l'extrême tout ça. Ils ont fusionné la première édition, la deuxième édition. Ils ont doublé la complexité. Alors, donc, c'est vraiment pour le nerd, alpha nerd, là. Tu sais, le alpha geek.
Le pire de tous, là.
Ah oui, ça se peut pas, là. C'est
mais ça, ça a été fait pour rire ou c'est vraiment sérieux?
Ben voilà. C'est ça qui est spécial. C'est qu'il y a énormément d'humour. Ils pouvaient pas prendre tous les noms. Il y avait quand même des droits d'auteur. Alors, par exemple, juste pour vous donner un exemple, il y avait la main de Vecna dans les artefacts, en tout cas de Donjons et Dragons, les anciens. Il y avait une liche, OK, tu pouvais te couper la main puis mettre la main de Vecna qui se greffait, puis là, ça donnait des pouvoirs, OK? Mais il y avait évidemment des à un moment donné, tu t'es commencé à momifier, bon. Et il y avait l'œil de Vecna, donc tu pouvais t'arracher l'œil et mettre l'œil de Vecna. Un autre, ils l'ont appelé genre Vectra, là, ils ont changé le nom. Puis là, c'était rendu, il y avait le cœur, il y avait la tête de Vectra. Fait que là, tu coupes la tête, tu mets la tête. Puis là, tu t'arraches le cœur, tu mets le cœur. Bon, voyez un peu, là.
Évidemment, les chirurgies de l'époque médiévale, remplacer la tête des gens comme ça, c'était pas nécessairement évident.
Non, c'est ça. Alors, tout est poussé à l'extrême. Puis il y a par contre, ils ont rajouté comme l'honneur, des trucs intéressants. Et puis là, tu peux donner comme à tes autres joueurs, tu peux donner des claques d'honneur. Et puis tu peux, paf, là, c'est comme là, tu insultes leur honneur. Puis là, tu te roules un jet. Là, le gars, il part plein de points d'honneur. Puis là, t'as un jet de sauvegarde contre le pardon. Que,
en tout cas, c'est contre la gifle.
Ouais, c'est comme une espèce de gifle. En tout cas, puis là, donc, il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Et même aussi, on encourage là-dedans. On dit beaucoup dans le guide du maître de jeu, là, on dit carrément, là, c'est vous contre les joueurs. Alors, n'hésitez pas, écrasez-les. Alors, c'est vraiment, donc, le joueur contre
c'est
le maître
assumé.
De jeu.
Alors qu'avant, c'était un petit peu latent, c'était un petit peu en dessous de la table. Maintenant, c'est assumé. Ah, oui. Les maîtres du jeu sont contre les joueurs.
Exactement. On veut les tuer éliminer. Ou en tout cas leur faire mal. Et c'est vraiment, toute l'imagerie est tournée vers ça. Tu vois, c'est très sanglant. Bon, l'art, c'est sûr que c'est un peu amateur, c'est un peu cartoon, mais c'est très... on voit sa couverture, hein,
la couverture joueur, très, très oui, old school.
Faut faire couper en deux.
La page couverture est très old school, tu sais, comparativement au nouveau jeu de rôle, mettons Vampire, tout ça. Oui. C'est toujours très beau, c'est toujours un nouveau design léché, tout ça. Voilà. Là, j'ai vraiment l'impression de retrouver le Warhammer première édition, le livre de oui. base quasiment. Là.
Oui, tout à fait, mais encore en plus laid, parce que là, c'est vraiment assumé. Mais c'est comme voulu, c'est un côté kitsch, puis c'est voulu. C'est comme... et aussi, dans il y a une espèce de ton tout le long du livre où on dit vraiment là que entre autres si vous êtes du genre à faire un club de drame là, tu sais d'improvisation là vous voulez vous épancher sur votre les motivations profondes de votre personnage versus sa relation troublée avec la société là on n'en veut pas de ça. Nous autres on veut détruire et tuer c'est ça Hackmaster
j'aimerais ça ce jeu
Hackmaster ça le dit hein?
Oui Hackmaster c'est ça c'est carrément ça on hache et on tue alors et ils ont sorti des guides de monstres, ils étaient rendus au volume 8. et avec des monstres de plus en plus ridicules. C'était les dimensions. En tout cas, c'est vraiment fou comme monde, mais il y en a qui disaient...
Comment ça s'appelait l'espèce de bébite là, dans le donjon? Je pense que c'est la deuxième édition, le Baraka ou Bassa... Tu sais, c'est une espèce de créature absolument impossible à tuer, puis ça prend un genre de souhait de majeur
oui, pour oui, oui, oui. Mais il y avait le Tarasque.
Tarasque, voilà.
Le Tarasque, c'est gros.
Est-ce qu'ils l'ont repris? Ils l'ont modifié?
Écoute, ils ont tout fait ce que tu peux imaginer. Ils en ont fumé du bon, là, pour ça. Mais il y a des critiques qui disaient, par contre, que là, c'était rendu que c'était la blague avait assez duré puis que ça faisait cher pour une blague. Parce que moi, j'ai arrêté après. J'ai eu le guide du joueur, le guide du maître de jeu. Regardez, je vois absolument que je parle aussi de l'écran du maître de jeu. Vous savez, tous les jeux de rôle ont un écran. Lui, c'est drôle parce que il se déplie. Et là, vous avez des...
Voyons donc, c'est quoi ça?
Il est en train de déplier devant nous. Et vous... Il y a à peu près 8 couleurs différentes. Il y a des tables partout.
Ouais, vous avez
c'est
là...
C'est écrit en mini, là. Hein?
Oui! Et c'est hallucinant. Vous avez une espèce d'alignement, OK, une espèce de rosette chromatique avec les différents niveaux d'alignement. En tout cas, c'est fou, là. Et donc, c'en est drôle. Mais le pire, c'est que ça fonctionne. C'est vraiment des geeks et tout fonctionne. Tous les liens fonctionnent. Okay. C'est vraiment sérieux. Et donc, c'est vraiment pour les actuaires, ce jeu-là.
Les actuaires.
C'est
pas pour les...
Moi, honnêtement, c'est... Je l'ai... j'ai bien aimé le lire, mais je suis pas sûr que je jouerais à ça. Par contre, le nouveau, là, ils ont sorti la version de base, qui est à 20$. C'est ça, je vais revenir à ça. Oui. Là, c'était le but de la chronique. Donc, 20$ US. C'est un livre de 192 pages, à couverture souple, mais quand même pour le... Évidemment, en noir et blanc, à ce prix-là. Mais c'est rare, là, aujourd'hui, des jeux de rôle à 20$. Là, donc, et ça nous mène du niveau 0 à 5. 1 à 5, c'est-à-dire. Donc, c'est vraiment la base, une introduction. Et étant donné qu'en 2007, Wizard of the Coast n'a pas renouvelé la licence de Donjons & Dragons, ben là, ça les a mis un peu sur la brèche. Là, ils ont pas eu le choix de développer leur propre système. Donc, ça va être un système complètement... Il n'y aura plus de taco, comme tu dis, il n'y aura plus de choses comme ça. Ça va être un jeu beaucoup plus moderne. On roule un D20, on met nos bonus, on compare défense, attaque. Et moi, j'ai lu beaucoup là sur le jeu et disons que je vais l'acheter parce que je pense que ça semble quand même un tout nouveau jeu beaucoup plus moderne et beaucoup en simulation. Puis ce qui est bien c'est que les classes sont un peu différentes de ce qu'on connaît et entre autres Donjons & Dragons est beaucoup axé sur le côté vraiment animé presque là c'est plus ça s'éloigne des canons de la littérature Tolkien tout ça. Tandis que ça c'est tellement old school qu'ils ramènent ils modifient les classes pour les ramener plus près des archétypes. Donc, la description du guerrier guerrier, par exemple, c'est vraiment, on imagine Conan le barbare. Ou,
très bon, facile de d'associer les personnages qu'on connaît.
C'est ça, plus à la littérature classique, là, et non pas des versions un peu moitié manga, avec des cheveux violets, là, comme on voit dans... Mais ça, c'est pas la même clientèle. Hein. Les nouveaux Donjons Dragons, on vise les jeunes, les ados, c'est correct, c'est bien. Mais ça, c'est, on vise vraiment là les vieux croutons comme
les,
moi.
Les gringards.
Les vieux de la première génération.
C'est bien, mais ça fait le tour de la chronique.
Oui, voilà. Hey,
merci beaucoup d'être passé à l'émission, Christian.
Donc le jeu s'appelle Hack.
Hack Master, Basic, qui sort, qui vient de sortir.
On n'oubliera pas ce nom, de sitôt. Et on y va en musique, François?
On va aller écouter la sélection musicale de Taxi Nouveau, Manuel, justement, pour à cause du Toy Company qui vient à Québec. Il a demandé de nous envoyer des pièces. Et ça va être une pièce, si je ne m'abuse, de Bubble Fish, qui est une des initiatrices là, du mouvement électro 8 bits. Et la pièce s'appelle A-H, point d'exclamation. Vous êtes à puissance maximale.
Bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites.
Bon, merci Bonhomme Carnaval qui vient juste de passer en studio et vient de partir. Et il a chaud présentement, je peux vous le dire. Et bien moi, la semaine passée, j'ai testé le jeu Infamous sur le PS3. Christian, tu nous avais parlé de ce jeu-là il y a quelques semaines de cela. Le fameux jeu Infamous là, d'un Average Joe, là, quelqu'un qui est une personne ordinaire. Là, et il arrive quelque chose dans la ville où il habite, là, vraiment. C'est Cole, son nom. Il habite à Empire City. Puis un jour, il y a une attaque incroyable qui arrive sur sa ville, une bombe, qui laisse plusieurs personnes mortes. Et ça sème le chaos partout dans la ville. Quand on dit semer le chaos, là, c'est que les gangs de rue prennent le contrôle de la ville. Les habitants savent plus trop quoi faire. Tout le monde est dans les rues, puis ça fait des commentaires. Bon, mon Dieu, c'est la fin du monde au secours. Les forces de l'ordre, les polices ne savent plus où donner de la tête non plus. Donc, ça donne un monde complètement chaotique.
C'est quel genre de bombe qui est tombée?
Ben, en fin de compte, c'était pas très, très clair. Là. Okay. C'est pas vraiment une bombe nucléaire, mais on sait qu'il y a eu une attaque à la bombe, tout simplement, dans le jeu. Et en essayant d'échapper à cette attaque-là, notre personnage, Cole, lui, ben, en se sauvant, c'est le début du jeu quand on commence à jouer, ben là, on croise quelques bornes électriques qui sont ouvertes et on se fait électrocuter d'un bord puis de l'autre jusqu'à devenir Monsieur Électrique, dans un sens, et avoir des pouvoirs incroyables,
des pouvoirs électriques
qui vont nous permettre justement, j'imagine que vous allez deviner,
de pitcher des éclairs.
Et de remettre
recharger les batteries.
Oui! Non, on peut même recharger les batteries, c'est vrai, c'est ça qu'elle fait. Mais ces pouvoirs-là nous permettront de ramener l'ordre dans la ville, voyons, quoi d'autre?
Bien sûr, bien sûr.
Alors, c'est un jeu d'action, vous l'aurez deviné, d'action et d'aventure à la troisième personne, pour ceux qui aiment les jeux à la troisième personne. Exclusivité PS3, c'est un jeu qui a été édité par Sony, développé par Sucker Punch, qui est aussi auteur de la série Sly. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, Sly, les petits ratons, là, qui genre...
Bon jeu.
Oh, oui, quand même très bien. C'est un jeu classé adolescent, donc pas trop compliqué. Un joueur, et présentement, ça se détaille à 69,99. Les jeux ont augmenté de 10$ au moins depuis un certain temps. Donc, c'est quand même...
C'est comme l'essence.
Eh oui, c'est un bon montant. Donc, c'est ça, on se promène dans la ville et on doit justement faire quelques missions, différentes missions. Donc, c'est un monde ouvert, ce jeu-là. Là. C'est pas vraiment un monde linéaire. Vraiment, on est dans une carte qui est limitée, oui, mais assez grande pour avoir du fun en masse.
Un peu à la Fallout, là.
Oui, ben oui, sauf que Fallout, c'est vraiment beaucoup plus développé, là. Puis Oblivion, c'est ça, là, c'est vraiment plus développé. On parle d'un monde, là, peut-être à la Grand Theft Auto, là, peut-être pas les derniers qui étaient super gros, mais un monde de la grosseur peut-être de Vice City, là, qui sont pas juste corrects pour jouer, pour s'amuser. Au niveau des effets visuels, l'ambiance, le jeu, là, la qualité graphique est bonne. Je m'attendais à plus un peu. Il me semble que j'ai vu des jeux qui sont sortis dernièrement puis que c'était visuellement plus beau. Puis au moment où je me suis mis à réfléchir à ça, je me suis dit, ouais, peut-être que parce que l'engin puis tout ça, puis on peut se promener partout dans la ville, à un moment donné, il faut laisser tomber certains détails. Parce qu'à part ça, c'est quand même très bien, là, les buildings puis tout ça, là, les édifices qu'on escalade. Parce que bien sûr, notre personnage escalade les buildings sans trop, les édifices sans aucun problème. Donc, c'est quand même pas si mal que ça. Les effets visuels, par contre, liés à l'électricité, parce qu'on tire de l'électricité, peu importe, là, en fait, quand c'est vraiment très bien fait, très réussi. L'ambiance sonore avec la ville chaotique également, c'est très bon. Pour ce qui est de la jouabilité du jeu, ben, comme je vous le disais, c'est un jeu à la troisième personne. La carte, elle est fixe. C'est un monde à jeu ouvert. Moi, la première fois que je l'ai essayé, puis certains de mes amis qui l'ont joué aussi m'ont fait penser à ça, c'est... je sais pas si vous connaissez le jeu Crackdown qui était sorti sur la Xbox 360. Ça ressemble un peu à ça. Un jeu à troisième personne dans lequel il y a des missions. On est un genre d'agent qui doit se battre contre les méchants. Et c'est ça, c'est que presque tout est permis dans ce jeu-là. Ça veut dire qu'on est sur le toit d'un édifice, on va sauter en bas, on ne meurt pas. T'sais, on est un super-héros, là. On monte les murs, les parois des édifices, on se promène sur la rail de métro sans problème. Donc, on saute des bonds de géants. Et c'est un peu un jeu dans ce style-là. Et en même temps, on a mixé une petite sauce Prince of Persia, Lara Croft, Tomb Raider, dans le sens qu'on a...
Les combats, c'est un peu plus...
Même pas au niveau du combat, plus au niveau des puzzles, vous savez, Prince of Persia, dans lequel on doit sauter d'un poteau à l'autre. Okay. Y a certaines choses comme ça qu'on doit faire. Bien sûr, il y a des combats aussi. On peut se battre avec nos fameuses mains qui sont toutes électrifiées, donc à distance. C'est super au départ. On se dit, ouais, ça change de l'ordinaire. Là. J'ai pas d'armes dans les mains. Mon arme est interne, ça plaît ça. Puis, à un moment donné, je me dis, bon, il me semble que ça pourrait être plus que ça. C'est certain qu'il y a certains combos où il y a certaines caractéristiques qu'on va pouvoir développer chez notre personnage plus on avance dans le jeu. C'est-à-dire que quand on complète des missions ou quand on élimine des gens, des gangs de rue qui nous attaquent de partout, on gagne des points d'expérience. Et ces points d'expérience-là sont échangeables à un certain niveau, à un moment donné, contre une augmentation ou une amélioration des pouvoirs qu'on a. Okay. Donc, ça va changer à un moment donné au fur et à mesure qu'on choisit les différents pouvoirs qu'on veut à donner à notre personnage.
Parce que sinon, ça reste quand même assez... c'est toujours les éclairs que tu tires et il n'y a pas vraiment de variété.
En fait, la base, c'est de tirer les éclairs. Moi présentement, là, dans les heures que j'ai mis sur le jeu, là, je me suis toujours servi de ça. Il y a aussi des mouvements qui sont un petit peu plus brusques. Là, où c'est que là, l'éclair, ça va être un rayon là, qui part de nous, puis ça fait comme un cercle là, qui s'en va vers l'extérieur. Là, ça peut arriver. Ou des sauts extraordinaires que quand tu arrives sur la rue, là ça déploie une force incroyable. Mais la base, c'est vraiment d'attaquer les gens à distance en tirant seulement quelques rayons.
Puis il n'y avait pas aussi un côté là, que tu pouvais prendre la force brute, plus rouge, plus puissant, mais plus dévastateur. Tu brûlais souvent, tu touchais avec ça des civils. Donc, tu devenais comme mauvais. Mais t'as moins précis.
C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on te pousse à faire des choix qui vont changer le karma de ton personnage. Donc, on les voit, ces choix-là, à un moment donné. Par exemple, au départ, dans la première mission qu'on fait, on aide les gens, parce que, bon, bien sûr, il n'y a plus de rations, il n'y a plus rien à manger du tout, et on aide les gens. On voit qu'il y a un avion qui a envoyé des rations, mais c'est pogné sur une genre de statue dans les airs, puis nous, on est déjà super-héros, on a tous les pouvoirs, donc on peut monter sur cette statue-là et détacher le filet pour que les rations soient données aux gens. Donc, on donne les rations. Une fois qu'on arrive en bas, c'est là qu'on nous demande, est-ce que vous voulez garder les rations pour vous, donc éliminer tous les gens autour de vous, ou laisser les rations aux gens qui en ont besoin. Et bon, moi, présentement, j'ai décidé que je faisais la quête de façon positive. Vraiment, là, donc, tous les gestes que je fais, c'est pour monter mon karma positif au maximum, ce qui me permet de débloquer, justement, des trophées positifs dans ça. Et je vais sûrement la réessayer au négatif. Donc, je me suis pas encore embarqué dans le côté négatif, mais c'est vrai que oui, en faisant ces choix-là, notre karma devient négatif. Et là, on devient peut-être plus un allié auprès des méchants que d'un ennemi.
Puis je sais que moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que, mettons, il y a une station de police. Si tu peux la détruire avec tes gros éclairs oranges, mais là, ils pourront plus t'aider plus tard contre un boss. Ah. Alors que si ouais, tu fais ça. Le bon gars précis, là, ils vont pouvoir t'aider après. Là,
oui, sauf boss. Que même les forces de l'ordre, quand tu commences au début, tu te dis, bon, ils vont être avec moi parce que, bien sûr, faut que j'élimine les gangs de rue qui n'arrêtent pas de tirer partout. Les forces de l'ordre sont là pour contrôler tout et on doit en éliminer quelques-uns dès le départ pour s'échapper, en fin de compte, de l'environnement.
Fait que t'es pas ami avec les policiers au début.
On n'est pas ami vraiment avec personne dans le jeu.
C'est rare dans les jeux vidéo qu'on est ami avec les policiers, vous avez remarqué.
À moins de faire un policier dans le jeu, là, mais oui, c'est vrai. Donc, c'est
un classique de super-héros, hein, c'est toujours comme ça, un peu plus ou moins. C'est ça.
Mais la rejouabilité, donc, est grandement avec ça.
C'est ça qui est bien. Oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on pourra leur jouer deux fois. C'est pas nécessairement que ça va changer l'histoire, mais ça va changer certaines réactions des personnages par rapport à toi, ou tout simplement le fait de... En fin de compte, comment ton personnage réagit aux autres également.
Les pouvoirs différents.
Et les pouvoirs différents, justement, c'est ça, c'est qu'on les voit, justement, quand on débloque les différents pouvoirs, on voit que si notre karma est positif et négatif, on voit la liste des différents pouvoirs. Donc, quels sont les effets que ça fait? Et c'est vrai que c'est très différent quand c'est positif et quand c'est négatif.
Moi, je veux savoir, les monstres ou tes ennemis, c'est des humains ou il y a des mutants ou des trucs comme ça?
Oui, bien, c'est... Au départ, on pense que c'est des humains. Moi, j'ai encore l'impression que des humains, quand je les vois de pas très loin, mais ils ont tous des genres de kangourous, des gilets kangourous ou cagoules. Ou, sont, présentement,
donc, c'est peut-être
sont...
des mutants.
Ben, c'est parce que de loin, on dirait que ce sont des vraies personnes. Puis quand t'approches, on dirait que justement, ce sont des mutants, même robotiques parfois. Mais je pense que ce sont vraiment des humains, tout simplement. Là. La première fois que je les ai vus, là, ils ont vraiment de l'air d'humains, mais vraiment avec un signe distinctif de leur groupe. Présentement, c'est ce genre d'ennemis-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont arriver dans le jeu au fur et à mesure que je le compléterai. Mm-hmm. Mais de ce que j'ai vu à date, là, c'était ce genre d'ennemis-là qu'il y avait.
Espérons que les gros boss, parce qu'un jeu de super-héros, d'habitude, ça prend
des boss.
On dit des gros boss, là, durs à battre, qui remplissent l'écran.
Puis Si ils se sont basés sur Crackdown, dans lequel, c'était pas un super-héros, mais c'était dans ce style aussi. Les boss étaient difficiles, mais c'était pas des boss énormes, là, du style Final Fantasy, quand on les rencontre, des choses comme ça. C'était simplement un gars de la mafia, fallait que tu descendes ou que tu t'attrapes, mais c'était plus dur, tout simplement, mais ça avait rien de fantastique. Dans ce jeu-là, ça me surprendrait justement que ça soit si fantastique que ça. Ouais, okay. Oui, il y a le côté fantastique. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va nous arriver ou ce qui va arriver à mon personnage, mais présentement, là, c'est vraiment tout simplement le chaos. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de super naturel qui est arrivé, dans le sens que c'est pas présentement, en tout cas, c'est pas les extraterrestres qui sont venus attaquer, là, tout simplement. Là. C'est qu'il est arrivé quelque chose, puis c'est ce qu'on voit.
Puis ça serait bien de comparer avec Prototype, je ne sais pas si...
Oui, Prototype, j'ai hâte de voir. En tout cas, présentement, je lisais justement des nouvelles cette semaine là-dessus, qui disaient qu'ils pensaient que Prototype allait vendre plus que Infamous. Mais bon, présentement, ben... Ça se pourrait, malgré qu'il y a eu de très bonnes critiques, Infamous, même des 9 sur 10, choses comme ça. Moi, je lui donne un 8 sur 10 en passant. Okay. Je pense que... Parce que ça m'a pris du temps à embarquer dans le jeu, tout simplement. Le tutoriel est long. Il nous a amené un peu partout pour faire des petites niaiseries, tu sais. Parce que notre personnage, finalement, il y a l'électricité qui est son pouvoir, mais à un moment donné, si tu l'utilises trop, tu n'es plus électrique, il faut que tu te recharges. Puis là, tu sais, dans le tutoriel, tu as un personnage qui t'amène un peu partout, puis voici comment faire, voici comment soulever des voitures, des choses comme ça, puis voici comment te recharger, mais ça a pris comme une éternité à faire le tour de la ville pour trouver une borne là, qui est tout simplement une prise électrique ordinaire. Là, je me dis, est-ce que ça va être ça la difficulté du jeu? Ça veut dire que je pourrais pas me recharger tout le temps. Puis maintenant, je me promène, puis je peux me recharger sur un poteau de téléphone, comme je peux me recharger sur une prise. Il y en a pas de problème. Je trouve toujours de l'électricité. Donc, j'ai trouvé ça long avant qu'on arrive dans le tutoriel à vraiment bien maîtriser le personnage. Donc, c'est ça qui m'avait un peu... je donnais un 7.5 au départ, un 7 sur 10. J'étais extrêmement déçu. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'aventure, là, vraiment, là, ça m'a donné le goût de continuer ce jeu-là. Puis je pense que c'est quand même un très bon jeu pour une exclusivité, là, vraiment. Là, je pense que Sony est allé vers la bonne voie. Donc, moi, je donne un 8 sur 10 à ce jeu-là. Quand même très bon.
Infamous.
Infamous.
D'après toi, une location ou un achat là, actuellement?
Ben, ça dépend toujours du type de joueur qu'on est. Moi, personnellement, je l'ai acheté personnellement parce que j'ai eu un rabais sur Internet. Là, il y avait une compagnie de magasins à rayons qui vendait ça 40$ moins cher. Wow. Pour la fête du Canada à l'époque. En fait, il y a une couple de semaines. Et
mais plein prix.
$69, là, je commence à trouver ça cher, acheter un jeu à 69$. Là. Quand tu arrives avec les taxes, tu montes à 80$. Là,
je commence à trouver ça cher. Aussi,
je pense que c'est à peu près une dizaine d'heures, ce jeu-là. Puis moi, ça me prend au moins 15-20. Ouais, c'est ça. Les concepteurs n'arrêtent pas de dire, ben voyons, si tu compares ça au cinéma, il n'y a rien là. Ouais. Au cinéma, ça te coûte 12$, tu es là pour 2 heures. Là, ça va te coûter 69$, tu es là pour 10 heures. Compare ça. Il me semble qu'un gamer, puis vous autres, vous êtes gamer, vous avez joué de jeux vidéo, il me semble que vous savez que c'est le fun de jouer pendant 15 minutes.
Si on veut jouer avec les comparaisons comme ça, on pourrait parler des jeux de plateau aussi, que tu vas payer 20$ pour s'en avoir pour des centaines
d'années. Justement. Donc, tu me dis louer ou acheter, ça vaut peut-être la peine de le louer au départ, juste pour voir si on aime ça. Parce que moi, premièrement, je ne suis pas un troisième personne. Je ne suis pas un joueur de la troisième personne. Je suis plus un first person, un joueur à la première. Mais bon, je commence à me reconvertir vers le côté noir du jeu vidéo. Et là, je me dis, bon, peut-être que ça pourrait être intéressant. Et oui, je commence à aimer. Il y a un jeu que j'ai bien hâte de jouer, puis d'en vous en parler, c'est Red Faction Guerrilla, qui est sorti, puis c'est un jeu à la troisième également. Donc, je commence à me réhabituer à ce type de jeu-là. Je te dirais peut-être location. C'est vrai que $69, c'est très, très cher.
On peut attendre qu'il baisse de prix un peu aussi.
Ça vaut la peine aussi, parce que je pense que c'est un jeu qui, même dans 6 mois, s'il baisse de prix, sera toujours un jeu qui sera à date.
Il va être simplement aussi bon.
Ah oui, ça va toujours être aussi bon. Donc, ça se démode pas nécessairement très facilement. Mm-hmm. Alors, c'était le tour de Infamous, un jeu qui est édité par Sony.
Alors, je te remercie, Vincent. Donc, on va aller écouter une pièce de... Ma foi, qu'est-ce que c'est déjà? Tarantule, ça va être la fête de P572 aujourd'hui, parce que c'est encore un des groupes de l'écurie P572. Sam Murdoch, on le salue, il écoute Puissance Maximale à chaque semaine, et il espère gagner des jeux, et il trippe. Et toujours est-il que le groupe, c'est Kate Kuna, en fait, c'est l'ex-chanteur des Ghouls. Il va faire la pièce Tarantule. Vous êtes à puissance maximale.
Je parfume sur tes lèvres, tes lèvres. Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Émission Puissance Maximale, déjà la fin de l'émission et on salue les gens qui sont venus nous voir aujourd'hui, dont Philippe...
Ah, le Hou.
Philippe A. Le Hou, du bivouac urbain qui aura lieu bientôt ici à Québec. Merci Christian Lacroix d'être passé à Puissance Maximale.
Ça fait plaisir.
François, également, excellent travail. Merci à toi.
Merci à toi, Vincent Langlois.
Et ça me fait plaisir. Et on se retrouve pour nos soirées Puissance Maximale ce soir. C'est à un endroit différent.
C'est à l'Estradamus sur la rue Couillard. Alors, on vous y invite au lieu de... on prend une pause de l'Abraham Martin cette semaine. On va peut-être y revenir plus tard. Ça reste à voir à l'Estradamus ce soir.
Et vous pouvez écouter notre émission sur www.puissancemaximale.com. Allez nous lire, nous faire vos commentaires. Nos adresses Internet ou e-mail sont là. Donc, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope.